Chapitre 2. L'indicatrice était à peine rentrée à l'hôtel Beausite et elle n'avait pas eu le temps d'ôter son chapeau qu'elle entendait sonner le timbre qui faisait communiquer sa chambre, et l'appartement de sa maîtresse. « Il n'est que 5h15 », se dit-elle en se hâtant. « Madame ne voulait s'habiller qu'à 6h30, pourvu qu'elle n'ait pas changé d'avis. Mon Dieu !» Ce fut le cœur étreint par cette anxiété que la pseudo-camériste se dirigea vers le petit salon où l'attendait cette patronne auprès de qui elle ne s'était placée que pour la voler. Et maintenant, Mrs. Edith Resley était étendue sur une chaise longue dans cette banale pièce d'hôtel que son séjour d'un hiver avait transformée en une espèce de home. Toutes les choses autour d'elle portaient l'empreinte de sa gracieuse personnalité dont le charme seul aurait expliqué pourquoi la complice de Bélière avait hésité tant de semaines. Edith était de ces Américaines qui semblent apporter dans leur raffinement cette volonté que les hommes de leur pays apportent dans la conquête de la fortune. Ce n'était, dans ce salon, qu'étoffes anciennes jetées sur les meubles, bibelots de style posés sur les tables. Des orchidées s'échevelaient dans les vases. Deux tableaux, l'un de Maes, représentant une fillette mangeant une gaufre auprès d'un chat, l'autre, un hallebardier du Bronzino, était posé sur deux chevalets. La dame de cet asile improvisé les avait disputés à coups de chèque dans une vente retentissante quelques jours auparavant. Des livres anglais et allemands, italiens et français se pressaient dans la bibliothèque. Cet autre signe attestait le cosmopolitisme de cette exquise créature dont la beauté fragile était comme dévorée par un excès d'intelligence et de sensibilité. Edith Resley était très blonde, d'un blond pâle et cendré. Elle avait des yeux d'un brun clair, dans un teint de fleur, un teint délicat à peine coloré. À la minute où la femme de chambre entra, elle ressemblait, dans sa robe d'intérieur de souple soie mauve et de dentelle, avec la minceur longue de sa taille, ses bras frêles sortant du volant léger des manches, ses mains aux doigts fuselés, ses pieds exigus, à une infante du musée du Prado. Quoique l'on ait beaucoup raillé, et à bon droit, les Américains sur leur snobisme ancestral, il n'en est pas moins vrai qu'un grand nombre d'entre eux revendiquent justement des atavismes peu démocratiques. Edith était de son nom de famille une Van Alstyne. Elle descendait d'un émigré venu des Pays-Bas au XVIIe siècle et qui passait pour être le bâtard d'un des derniers gouverneurs espagnols. Les amis d'Edith, qui tous avaient, en classique millionnaire yankee, des galeries regorgeant de chefs-d'œuvre plus ou moins authentiques, l'appelaient volontiers le Velázquez. Elle était surtout, malgré les bonheurs d'une existence trop comblée, ou peut-être à cause d'eux, une de ces femmes, comme il y en a aussi beaucoup outre-mer, qui veulent que toutes les personnes autour d'elles soient aussi gâtées, aussi comblées qu'elles-mêmes, tant elles sont profondément, intimement kind. Le mot est intraduisible. Il signifie une bonté, une bienveillance plutôt, toujours éveillée, toujours active, qui va des choses importantes aux petites, qui ne se permet pas un geste trop vif, un son de voix brutal, qui met partout une atmosphère de douceur. Cette grâce du cœur avait été, ô ironie, la cause que Madame Risley avait pris près d'elle la maîtresse de la Pache. Sa maid habituelle, une Allemande, à son service depuis 10 ans, avait été appelée par télégramme auprès de sa mère malade. Mrs. Risley, pour donner à cette fille la liberté d'un congé illimité, avait cherché une remplaçante un peu hâtivement. Adèle s'était présentée sous le nom d'Aurélie Brissot, avec des certificats dérobés. L'Américaine l'avait engagée à première vue. « Je crois à la sympathie ou à l'antipathie, disait-elle, et j'y cède aveuglément. » Il y avait bientôt 3 mois que cet engagement avait eu lieu, et la femme de chambre, arrêtée ainsi, avait continué de tant plaire à Mrs. Risley qu'elle projetait de l'emmener en Amérique avec l'autre qu'elle laissait s'attarder dans sa famille. C'était l'une des 2 causes de sa prolongation de séjour à elle-même. La vente où elle avait acheté les 2 tableaux avait été l'autre. Et voici qui paraîtra d'une ironie plus forte encore. Depuis ces derniers 15 jours, un scrupule tourmentait cette charmante femme au point de lui faire battre à elle aussi le cœur chaque fois qu'elle revoyait la fausse Aurélie. Comment lui demanderait-elle d'accepter de devenir seconde femme de chambre après avoir rempli les fonctions de première si parfaitement, et cela sans la froisser ? L'Allemande annonçait son très prochain retour et Mrs. Ridley en était, à n'avoir pas encore osé aborder ce sujet avec la remplaçante, tant elle s'en croyait déjà aimée. Elle ne se trompait pas tout à fait. Si l'abominable Jules Bélière avait observé, depuis quelques semaines, un secret changement dans sa complice, une irrésistible gratitude pour la patronne y entrait pour beaucoup. Si, depuis des semaines, Adèle imaginait sans cesse un prétexte nouveau pour reculer l'instant du coup projeté, c'est que les procédés toujours plus caressants, toujours plus doux de l'américaine, allaient réveiller sans cesse le nouveau remords dans la conscience de la petite bourgeoise devenue la chienne de chasse d'une bande de voleurs. Ses remords n'avaient pas été assez puissants pour avoir raison du funeste amour qui la liait aux brigands, puisqu'elle s'était enfin décidée à tout organiser pour le cambriolage de ce soir. Elle l'avait fait, dans ses dernières 24 heures, avec une véritable fièvre, sur une menace de Bélière. Il avait dit « Je vais prendre une chambre dans l'hôtel, ce sera plus sûr ». L'éclair de son regard avait été trop aigu. Adèle avait pris peur. On a vu par quel procédé elle avait cru pouvoir s'arranger pour que sa maîtresse fût loin pendant que le vol aurait lieu. Elle avait pensé l'assurer du moins contre notre danger. À l'appel du timbre, elle avait eu un pressentiment que ce calcul allait être déjoué. Qu'on juge de son saisissement épouvanté lorsque, arrivée dans le salon, l'autre l'accueillit par ses paroles. « Je ne sortirai pas ce soir, ma pauvre Aurélie. Madame Renaud, c'était le nom de la vieille institutrice chez laquelle Edith avait passé 2 ans quand elle en avait 14. Madame Renaud me télégraphie qu'elle est souffrante. Moi aussi, j'avais un peu de migraine. Je dînerai dans mon salon, tout simplement. » Sur le moment, Adèle ne répondit pas. Une vision venait de surgir devant elle. La porte qui donnait accès dans la chambre à côté s'entr'ouvrant et le voleur entrant, persuadé que l'appartement était vide. Mrs. Ridley entendrait du bruit, elle irait regarder, et alors ? Alors, ou bien elle avait le temps d'appeler et Jules était perdu, ou bien il tuerait. Dans 2 heures, cette vision serait une réalité. Le cœur de la femme de chambre se serra d'une telle force qu'elle pâlit et se mit à trembler. La maîtresse, qu'avait déjà surprise son extraordinaire immobilité et son silence, ne put pas ne pas remarquer cette pâleur. « Mais qu'avez-vous, Aurélie ? » demanda-t-elle. « On dirait que vous vous trouvez mal. » Elle s'était levée de sa chaise longue pour aller vers Adèle, qui l'arrêta d'un geste. « Ce n'est rien, madame, c'est un tout petit étourdissement. Il est déjà passé. »« Il y a déjà plusieurs jours que je vous trouve singulière, » reprit Mrs. Ridley. « Quelque chose vous déplaît dans mon service ?» insista-t-elle, avec cette voix amie qu'elle avait si naturellement et qui était comme un toucher à peine appuyé, quasi craintif. On eût dit qu'elle avait peur de faire de la peine à ceux auxquels elle parlait ainsi, et elle continua. « J'en serais bien ennuyée. J'ai été si contente de vous que je pensais cet an dernier à vous faire une proposition. Vous m'avez dit que vos parents n'avaient que vous et votre sœur. Croyez-vous qu'ils répugneraient à vous laisser aller en Amérique ?»« En Amérique ?» répéta la complice de Jules Bélière. « Madame voudrait vous emmener avec moi ?»« Oui. » Et, rougissante, « il y a une légère difficulté à cela, et c'est ce qui me fait beaucoup hésiter à vous en parler. Répondez-moi franchement. Vous êtes bien sûr que je ne voudrais pour rien au monde vous froisser ?»« Oh, madame !» fit Adèle. « Madame n'a toujours été que trop bonne pour moi, que trop indulgente. »« Vous le méritez, » répondit la maîtresse. « Que serais-je devenue sans vous ces mois-ci ? » Et avec plus d'embarras encore et de timidité, « mais vous devez comprendre que l'on n'a pas vécu des années avec une femme de chambre sans s'y attacher et que je ne puisse pas quitter ma vieille Muller. Elle va revenir. J'ai reçu une lettre d'elle avant-hier. C'est vrai qu'elle commence à être vraiment vieille et qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est un peu au-dessous de vous d'être seconde. Si je vous offrais pourtant cette place chez moi, en vous donnant les mêmes gages, avec la promesse qu'un jour vous succéderez à Muller, accepteriez-vous ? Il y avait, dans l'espèce d'imploration avec laquelle cette femme si riche formulait cette offre à une inférieure, une grâce de cœur étrangement touchante. Un si puissant effluve de bonté émanait d'elle que cette très petite chose, un peu enfantine, en prenait une véritable noblesse. C'était une humble charité, mais qui révélait de si riches trésors de sensibilité, une si humaine façon de comprendre et de pratiquer les rapports avec les déshérités de l'existence. Adèle, qui s'était meurtrie depuis ces 2 années aux brutalités du monde abject où la faisait vivre son indigne liaison, éprouva de nouveau l'émotion si souvent ressentie depuis qu'elle se mouvait dans le cercle d'influence de cette charmante âme, une honte affreuse de lui mentir, et cette honte se doublait en ce moment d'un sursaut de remords plus intolérable encore. Le contraste entre cette offre et les discours de son amant tout à l'heure était trop fort. Elle regardait presque avec égarement cet être si frêle, si bon, si tendre, qui allait dans quelques instants, et par sa trahison, être la victime d'un hideux guet-apens, qui sait, d'un assassinat, et elle s'écoutait balbutier des phrases incohérentes. « Madame est si bonne, je remercie Madame de sa bienveillance pour moi. Madame comprendra aussi que je ne peux pas répondre comme cela. Le service de Madame a été si facile toujours. Comment Madame peut-elle penser que je serai froissée, qu'elle ne veuille pas sacrifier son ancienne femme de chambre à une nouvelle ? Première ou seconde, auprès de Madame, je serai toujours bien. Mais... « Mais vous ne voulez pas vous décider sans avoir parlé à vos parents, » reprit Mrs. Risley. « Et ce n'est pas moi qui vous donnerai tort. »« Ou je vous donne tort, en revanche, » ajouta-t-elle, « c'est quand vous faites des mystères avec moi comme maintenant. » Elle insista avec un sourire d'affectueuse malice sur un geste que son interlocutrice n'avait pu réprimer. « Oui, c'était la fête de votre mère aujourd'hui, la Sainte-Émilie. » Adèle se souvenait à peine d'avoir, en parlant à Mrs. Risley, donné ce prénom à cette mère imaginaire. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas rappelé ? Je vous aurais dit plus tôt de prendre votre soirée et d'aller la passer auprès des vôtres. Allons, ne soyez plus triste. Vous avez encore le temps, si vous partez tout de suite, d'arriver chez votre sœur pour dîner. D'ici à Grenelle, il n'y a pas si loin, et je n'ai aucun besoin de vous avant 11 heures. » « Dites-moi seulement que vous êtes contente. »« Oh, madame, très contente !» La femme de chambre prononça ce remerciement d'une voix si basse que la maîtresse l'entendit à peine et elle s'échappa du salon pour cacher les larmes qui lui venaient au bord des yeux. « Comme ces filles du peuple sont sensibles, » se dit Mrs. Risley, demeurée seule. « J'ai deviné, c'était l'idée de cette fête passée ainsi qui la rendait triste. » Quel bonheur que j'ai regardé le calendrier et que j'ai remarqué le nom de la sainte du jour !»